Alors, ce matin, c'est spécial, je vais vous partager un peu, on appelait ça récit de voyage, d'accord? Puis c'est un voyage qui date un peu, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui ne savaient pas de quoi je parle. Au printemps dernier, je sais, c'est loin, au printemps dernier, printemps et été, l'Église m'a libéré pour 11 semaines. Alexandre a pris vaillamment ma place. Et donc, je suis parti pendant 11 semaines dans le but d'aller répondre à une grande question. D'accord? C'était un congé, on appelait ça repos et ressourcement. Et donc, je suis parti avec une quête. Pour moi, c'était une quête, ça. Et la question que j'avais pour le Seigneur, c'était la suivante. Comment conduire notre Église dans la grande mission de faire des disciples de Jésus-Christ? Comment conduire notre Église? C'était vraiment ça ma question. D'accord? Ça semble peut-être très simple et très évident, mais ma question avait un contexte. Là où on est rendu dans l'histoire de l'Église, de cette assemblée, le nombre que nous sommes, grandissant, tout ça, comment conduire l'Église dans cette grande mission-là, de grandir nous-mêmes constamment comme disciples de Jésus-Christ et d'aller faire de toutes les nations des disciples? Et il y a un contexte aussi qui est notre époque, qui est notre culture, qui est de plus en plus post-chrétien. C'est évident, si vous êtes moindrement connecté, si vous jasez avec les gens, c'est très, très évident. Et donc, j'avais cette question-là pour le Seigneur. Comment, quel est mon rôle, quel est le rôle des leaders, comment est-ce qu'on s'engage dans notre relation avec le Grand Longueuil, avec la communauté, comment est-ce qu'on se met davantage en mouvement ensemble dans cette quête-là de grandir nous-mêmes comme disciples de Jésus-Christ et d'aller faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, juste avant de rentrer dans mon récit de voyage, je fais juste une petite parenthèse pour adresser cet élément-là. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus-Christ? Parce que je suis conscient que ça peut avoir de la peau. Pour ceux qui lisent les Écritures depuis des années, ça va, OK, faire des disciples, Jésus veut qu'on fasse des disciples. Mais vous savez, ça peut avoir de l'air extrêmement prétentieux. Extrêmement prétentieux. De dire que nous, notre ambition, c'est d'aller vers 380 000 personnes à Longueuil et de faire de ces gens-là des disciples de Jésus-Christ. Mais qui êtes-vous pour prétendre que les gens doivent vous suivre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette idée-là? Mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a donné ce commandement-là. Vous pouvez tourner avec moi dans Matthieu 28. Vous connaissez probablement le passage par cœur, mais prenez le temps de tourner avec moi, s'il vous plaît, simplement pour se remettre dans le contexte. Et c'est Jésus lui-même qui a enjoint, qui a donné cette directive-là à ses disciples alors qu'il allait rejoindre son Père Céleste. Dans Matthieu 28, verset 18, voici ce qu'on lit. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, parce qu'il a vaincu la mort, son Père l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. » Et voici ce qu'il dit à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le terme « disciple », le mot « disciple » qu'il y a là dans la langue originale a un sens qui nous éclaire énormément. Qu'est-ce que ça veut dire « aller faire de tous les disciples » Le mot « disciple » qui est là signifie simplement quelqu'un qui suit, quelqu'un qui marche sur les traces de quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Et donc, ce qu'on est appelé à faire, c'est à présenter Jésus comme modèle. Tout simplement, c'est ça. Présenter Jésus comme modèle et inviter les gens à suivre, à marcher dans les traces de Jésus-Christ. Voyez-vous dans le passage un petit peu plus loin, si vous revenez avec moi, vous allez voir, il est marqué « Enseignez-leur à observer au verset 20 tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus a enseigné plein de choses avec une sagesse divine, littéralement. Jésus a incarné ces valeurs-là qu'il communiquait de manière parfaite. Et donc, lorsqu'on parle de faire des disciples de Jésus-Christ, on est simplement en train de dire, voici, on vous présente un modèle. Ce modèle-là, c'est Jésus-Christ. Ce modèle-là est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, Jésus? Bien, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu le Fils de Dieu. Et donc, il est incomparable. Le modèle qu'on présente n'est pas comparable avec les grands sages qu'on trouvera ailleurs. Il y a eu des hommes grands. On a célébré les funérailles de Nelson Mandela à la fin de l'année 2013. C'était un homme d'exception. C'est pas un homme parfait. Quand on fouille dans son histoire, il y a eu des moments probablement d'égarement dans son cheminement. Peu importe. C'était un homme d'exception. Admettez-le. C'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. c'est celui qui nous a fait connaître Dieu comme personne. Parce que c'est son Père et qu'il le connaissait comme personne ne le connaissait. Il nous a révélé Dieu le Père comme aucun homme l'a fait jamais et ne le fera jamais parce qu'il est Dieu le Fils. Et donc, il est le modèle parfait pour apprendre, le modèle à imiter, le modèle à suivre. Et tout le monde a besoin de modèles. Chacun d'entre nous, on a besoin de modèles. Vous avez des modèles, il y a des gens que vous admirez, il y a des gens qui sont sur la scène, dans les médias, il y a des gens que vous lisez, dans votre domaine d'expertise, vous avez des modèles, vous aspirez à devenir comme eux, vous les regardez aller, vous inspirez de ces gens-là. Tout le monde a besoin de modèles. Et peut-être que dans ta vie, tu dis, ben j'en ai pas vraiment. Moi, j'ai pas de modèle à qui je regarde. Et ça se peut très bien que cela exprime, reflète le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas en mouvement dans ta vie. Tu n'es pas en mouvement, tu n'es pas en train d'avancer, tu n'es pas tiré vers le haut, aspiré vers le haut en regardant d'autres personnes. Et peut-être justement cette année 2014 commence et on te présente ce modèle-là qui est Jésus-Christ. Afin justement qu'en regardant lui, tu sois tiré vers le haut pour devenir une meilleure personne. Pour devenir quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui va ressembler davantage à Dieu. Peut-être aussi que tu n'as pas de modèle, parce que le problème, c'est un problème d'orgueil. Et tu estimes que tu n'as pas besoin de modèle. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de modèle, selon eux. Ils sont leur propre modèle, ils sont leur propre inspiration. Tu vas faire le tour de toi-même assez vite, je te le dis. Et peut-être que tu as besoin justement de te détourner de toi-même et de dire non. Poser ce geste-là d'humilité, dire, je veux découvrir un modèle. Celui que je te présente ce matin, celui que cette Église te présente, celui que Dieu te présente, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on commence à découvrir qui est Jésus-Christ en lisant les Évangiles, ça devient évident qu'il est incomparable. Il ne se compare pas aux autres hommes. Il ne souffre pas la comparaison parce qu'il est autre, il est Dieu le Fils. Et donc, si tu veux te faire un cadeau en début d'année 2014, tu ne connais pas assez Jésus-Christ pour dire « Ouais, mon modèle. » Commence par lire les Évangiles. On commence l'année. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis donne-moi des nouvelles. Viens me voir pour me dire comment tu trouves Jésus dans quelques mois. Tu vas voir un modèle exceptionnel, un modèle d'exception. Et tout le monde a besoin de modèles pour pouvoir lui ressembler. Et donc, c'est ça, être un disciple de Jésus-Christ, c'est marcher à sa suite. Et lorsque je suis parti dans ma quête, ma question pour Dieu, c'était simplement celle-là. C'était, Seigneur, comment est-ce que je peux aider l'Église, conduire l'Église? Comment est-ce que, comme Église, on peut entrer davantage en mouvement pour grandir nous-mêmes comme disciples de Jésus-Christ et aller faire de toutes les nations des disciples? C'est le mandat que tu nous as donné. Comment est-ce qu'on doit faire ça? J'avais des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient très contextuelles à notre Église, là où on est rendu dans notre grandeur d'Église, dans son histoire aussi, dans ses valeurs que nous portons depuis les fondateurs de cette Église, depuis les pionniers qui ont implanté les beaux et tous ceux qui ont suivi, des questions qui étaient plus contextuelles à notre époque, là où on est rendu dans l'histoire de cette Église, des questions qui concernaient mon rôle à moi et le rôle des leaders dans l'Église. Parce que le rôle évolue, se transforme progressivement au fur et à mesure que l'Église grandit et que l'Église avance. Et donc ça, c'était mes questions. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses. Honnêtement, j'ai été vraiment béni. J'ai trouvé énormément de réponses, des bonnes pistes, des bonnes lignes de réflexion. Et je vais vous partager ça davantage en février, d'accord? Il va y avoir au moins 3 dimanches matin en février qui vont être consacrés à présenter la vision. Ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est vous faire un léger, très rapide récit de voyage. Je me suis dit, je vais rendre ça quand même plus concret et je vais vous présenter les églises que je suis allé visiter. Voyez-vous, dans cette quête-là, j'aurais pu tout simplement aller dans un chalet et aller prendre mon costume de moine, puis aller dans la prière, puis me retirer seul avec mon Dieu, la parole, puis une tonne de bouquins, puis tout simplement aller là. Ce qui aurait été bien. Mais j'ai décidé d'ajouter à ça, d'apprendre des autres aussi. Et donc, oui, il y a eu beaucoup de prières, oui, il y a eu beaucoup de temps dans les Écritures, oui, il y a eu énormément de lectures, mais je suis allé visiter des églises, d'accord? J'ai voyagé pas mal. Je pense qu'on a une carte qui nous montre l'Amérique du Nord, si on peut aller là. Et donc là où il y a des étoiles, bien voyez-vous, c'est des églises que je suis allé visiter, d'accord? Alors je me suis rendu en Floride, au Kentucky, à New York, je me suis rendu complètement dans l'Ouest, à Seattle, dans l'État de Washington, évidemment plusieurs églises au Québec, j'avais des possibilités pour aller en Ontario, aller à Vancouver, il y avait d'autres possibilités, mais j'avais 11 semaines, d'accord? Alors en 11 semaines, j'ai visité 11 églises, j'ai passé des entrevues à 15 pasteurs, pour autant que j'ai pu retenir avec toutes mes notes, j'ai lu ou je suis en train de compléter des lectures sur une quinzaine de bouquins, j'ai écouté une trentaine de prédications, j'ai assisté à 2 conférences, beaucoup, beaucoup d'informations, j'ai des calepins de notes entiers, d'accord, où je partais de là, puis là je dis, ok, oui, c'est bon, ça, j'aime ça, c'est intéressant. Et donc, je vais vous partager ce que je vais faire là, très rapidement, une vingtaine de minutes. On va passer église par église, puis je vais juste vous partager une ou deux inspirations que j'ai retenues de ces assemblées-là. D'accord? Ça va être très bref. Alors, ce que je fais, c'est que je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller plus loin là-dedans. Vous dites, « Ouais, mais j'aurais aimé ça que tu me parles de telle église, puis je sais qu'ils font ça. Est-ce que vraiment tu penses que c'est la bonne chose à faire, tout ça? » Le 19 janvier à 19h, le soir du 19 janvier, s'il y en a qui veulent venir jaser avec moi, on va prendre environ 1h30, et là, je vais pouvoir échanger davantage avec vous. Maintenant, ça se peut qu'il y ait des pasteurs qui soient présents aussi. J'ai plusieurs pasteurs qui m'ont demandé de leur partager ça. Alors, j'avais dit qu'on ferait ça un café. Alors, si ça vous intéresse, pas besoin de réserver vos places. Vous venez le 19 janvier, 19h. On va prendre 1h30 et là, ça va être plus interactif, d'accord? Maintenant, je veux vous mentionner tout de suite quelque chose, d'accord? J'ai choisi ces églises-là parce que je croyais que j'avais des choses à apprendre. J'ai choisi ces assemblées-là parce que je les observe depuis longtemps, puis je dis, il y a des choses à apprendre ici. Je veux grandir, je veux être humble dans ma démarche, puis juste apprendre aussi des autres. Aucune de ces églises-là n'est parfaite. Juste au cas où vous aviez un doute là-dessus. Et je ne vois aucune de ces églises-là comme parfaite. Aucun de ces pasteurs-là n'est parfait. En fait, plusieurs des pasteurs que j'ai interviewés, ça c'est un encouragement pour moi, pendant la discussion, disaient, ouais, mais justement ça, on travaille fort là-dessus parce que c'est pas en place, on n'y arrive pas, on a essayé ça, mais on n'arrive pas à avancer, à être comme Christ nous demande dans tel ou tel domaine, d'accord? Alors, il n'y a aucune de ces églises-là qui est parfaite, et ça, je tiens à le dire. Et la majorité d'entre elles, il y a des éléments où si j'avais une longue discussion avec le pasteur, il y aurait eu des choses où j'aurais dit, pas tout à fait convaincu que c'est ça que les Écritures disent ou c'est comme ça qu'on devrait le mettre en place, d'accord? Alors, je vous mentionne ça, mais en même temps, comme je vous dis, j'ai fait ce choix-là de ne pas aller faire ces 11 semaines-là dans un camp au fond du bois avec mon Dieu, ma Bible, un bout de crayon, un bout de papier. J'ai décidé humblement aussi d'aller apprendre de ces gens-là. Et chacune des églises que je suis allé visiter sont des églises qui sont dynamiques, qui sont vraiment engagées à vouloir faire ce que Christ leur demande de faire et qui poursuivent ça ardemment, avec beaucoup d'efforts. Alors, je voulais apprendre de chacune de ces églises. Commençons rapidement, si on aura le temps de passer au travers. Ma quête a commencé avant le congé, parce qu'au mois d'avril, je suis allé à une conférence à laquelle je suis allé déjà à plusieurs reprises. Ça s'appelle « Gospel Coalition ». Et cette conférence-là, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, plus de 5000 pasteurs qui sont présents, des épouses, des sœurs aussi qui sont là, mais beaucoup, beaucoup de pasteurs qui sont présents, des gens d'un peu partout sur la planète, des conférenciers extraordinaires. Et déjà pour moi, 2 éléments que je retenais qui m'ont vraiment parlé, une prédication de David Platt, si vous voulez être en feu pour la mission, allez écouter David Platt, il va vous inspirer. Une prédication de David Platt à partir de l'Apocalypse et la mission, c'était vraiment, ça a été une inspiration, ça a été mon highlight de cette conférence-là. Ensuite de ça, il y a eu toute une formation apportée par l'équipe autour de Tim Keller, l'église Redeemer Presbyterian Church à Manhattan, où ils s'investissent beaucoup à former les chrétiens, à coacher les chrétiens pour grandir dans leur témoignage, dans leur marché, au marché du travail. Ils font du coaching entre les professionnels, entre les gens dans l'église, tout ça. Et c'est vraiment intéressant parce que si vous vous reportez à Manhattan, Tim Keller s'est dit, bien, c'est pas réaliste pour moi de m'efforcer de convaincre. Vous comprenez, c'est énormément de professionnels. Les gens travaillent en moyenne 60, 70 heures par semaine là-bas. C'est la réalité, d'accord? Et donc, de dire à ces gens-là, il faut absolument que vous fassiez de l'ordre dans votre vie pour avoir tant d'heures à donner dans le bâtiment de l'Église, ça fonctionne pas dans ce contexte-là. Et donc, ils ont dit, non, on va plutôt s'adapter. Leur premier champ missionnaire, hein, c'est le travail. Et donc, ils ont plus que bien d'autres églises travaillé très fort à équiper les chrétiens, à exceller au travail, dans leur compétence, dans leur profession, et aussi apprendre leur travail comme un champ missionnaire. Et ça, je suis reparti de là avec du matériel, ça a été vraiment génial. Lorsque je me suis rendu à cette conférence, je suis allé visiter une première église qui était l'église de Cross Point à Orlando. C'est probablement l'église qui nous ressemble le moins. C'est un contexte assez cossu, assez en moyen, tout ça. Banlieue, mais banlieue assez riche. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans cette église-là, une église avec comme 4 campus à peu près, si je ne me trompe pas, 1700 personnes, donc pas mal plus gros que nous, très intentionnel dans la formation de disciples. Lorsqu'ils accueillent les gens le dimanche matin, si quelqu'un veut avancer, veut connaître Jésus-Christ, veut grandir, exceptionnel à quel point les gens ont l'opportunité d'être, entre parenthèses, entre guillemets, pris en charge pour avancer dans leur cheminement. Et je suis parti de là avec du matériel vraiment intéressant. Prochaine église, j'ai mentionné Redeemer Presbyterian Church. Alors là, je suis allé là, j'étais avec plusieurs des visites, je l'ai faites avec la famille. Ça, c'était vraiment intéressant parce que j'étais comme, je partais avec les enfants, puis avec Esther, puis je disais, regardez ça, 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 observez ces choses-là, on en jase après. C'est quoi votre feeling? Comment vous avez aimé ça? C'est différent. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont un background presbytérien. C'est ça. C'est assez droit. Et on sort la main. Puis bon, c'est un autre contexte. Mon épouse a trippé sur le quartet de musique classique. Absolument. Je ne sais pas si c'est un quintet, n'importe quoi. Ça sonne classique, mais c'était vraiment bien. Tim Keller, peut-être que vous le connaissez à cause de son livre « Reason for God ». Tim Keller a une force dans la prédication de la parole de Dieu où il s'est toujours efforcé, à cause du contexte là-bas, à être très sensible lorsqu'il expose la parole de Dieu. Il prêche vraiment en prenant les Écritures et en prêchant un passage de manière très claire, mais toujours être sensible. Si j'ai des gens qui viennent, qui ne sont pas familiers avec les Écritures, quelles sortes de questionnements vont être suscités en lisant ce passage-là qui, admettons-le, relève d'une autre époque quand même, suscite des questions. Alors ça, on appelle ça de l'apologétique, la défense de la foi. Il y a toujours ce souci-là. Et il va toujours aussi chercher à ramener l'élément dynamique pour vivre le principe qui est là comme étant l'Évangile. C'est l'Évangile qui me permet de vivre cette vérité-là qu'on trouve dans ce passage-là. Autrement, je vais essayer d'être religieux. Et donc ça, c'est une de ses forces. Une autre de ses forces, Tim Keller, inspiré par ce passage dans Jérémie où alors que les Juifs étaient en déportation, Dieu leur dit « Aimez la ville, servez la ville, cherchez le bien de la ville où vous avez été envoyés en déportation parce que votre bonheur dépend de son bien. » D'accord? Et donc, soyez là pour cette ville-là au lieu de voir cette ville-là comme antagoniste, comme ennemi. Et donc, l'Église s'investit énormément dans la ville de Manhattan. Les chrétiens sont tous invités à servir dans toutes sortes d'œuvres de charité. Et c'est à travers ça qu'ils annoncent l'Évangile. À travers leur service, ils vont carrément présenter Jésus-Christ. Et donc, l'Église a bonne réputation dans la ville, tout en étant une Église qui conduit énormément de gens à Jésus-Christ parce qu'ils sont là et ils aiment cette ville-là. Excellent, comme je l'ai dit, pour la formation des chrétiens sur le marché du travail. On va aller à la prochaine église, s'il vous plaît. Sojourn Community Church, c'est l'église où j'ai passé le plus d'entrevues. Je pense que j'ai interviewé comme 5 pasteurs là-bas. J'ai assisté à 3 services dans une journée. J'ai écouté 3 fois le même sermon. Vraiment intéressant, c'est une église que je suis depuis longtemps. C'est probablement celle-là et puis une église à Seattle, les églises qui ont le plus d'affinité avec nous, le plus de relations à cause du contexte. C'est une église qui est dans un contexte urbain, donc pas autant banlieue que downtown, mais c'est une église qui est dans un contexte où les gens sont pas extrêmement riches, il y a beaucoup d'artistes et ils ont réussi vraiment à connecter avec leur ville. Alors, ils ont su comment habiter le quartier où ils sont. C'était frappant, je l'avais marqué, ceux qui suivaient mes petites lettres, je suis allé une journée, j'avais quelques heures à moi, je marchais sur la Main là-bas, et puis j'ai vu un tattoo shop, fait que je rentre dans le tattoo shop, je commence à jaser avec les gars, tout ça, puis là les gars me disent « Ouais, t'es ici pourquoi? » Ben, je suis ici pour une conférence, puis je venais visiter une église, Sojourn. J'étais vraiment pas dans le coin, d'accord? C'est pas dans le quartier là-bas. Ah ouais, Sojourn, je les connais, ces gars-là, ils se tiennent tous au café là-bas. Puis quand ça me parlait de l'église, d'accord? Alors j'ai eu l'opportunité juste de mesurer la réputation de cette église-là dans cette ville. L'église a su habiter son quartier et venir faire une différence. Une anecdote que je vous donne, parce qu'ils sont très, très, très actifs dans le quartier. Ils font des choses pour aider le quartier et à travers ça, ils annoncent l'Évangile. Puis je me suis assis avec le pasteur, il appelle ça le « seed pastor ». C'est comme celui qui... le pasteur de la semence, où il sème de l'amour autour d'eux dans le quartier. Puis j'ai dit, quel est l'impact des œuvres, des bonnes œuvres que vous faites dans l'évangélisation? Bien, il dit, pour être franc, ça se mesure difficilement, ça se mesure toujours juste sur le long terme. Puis là, il m'a raconté, très brièvement, un homme qui habitait peut-être à 2 kilomètres de leur édifice principal et qui, plus tard, ils ont découvert, était extrêmement réfractaire. Eux, ils sont là, puis ils ont des journées, ils font des corvées, ils vont nettoyer des ruelles, des choses comme ça dans la ville, puis ils invitent les gens de la ville à venir avec eux. Puis chaque fois qu'il les voyait faire ça, lui était là, puis il se disait, ils sont juste en train de faire ça pour ma part, et eux autres, c'est ça dans le fond. Tu sais. Puis, mais progressivement, à travers les années, il a vu le témoignage de cette église-là. Et Dieu est venu parler à son cœur dans un moment difficile dans son couple. Et son réflexe à ce moment-là, ça a été de dire, je sais où est-ce que je vais aller trouver de l'aide. Ça va être à cette église-là. Lorsque le pasteur m'a conté ça, le dimanche avant ou le dimanche précédent, le monsieur venait de se faire baptiser, d'accord? Et donc, ça a été à long terme. Et plusieurs des pasteurs, c'est ça qu'ils m'ont partagé aussi. D'accord? Mais ça a été une église vraiment inspirante pour moi, où j'ai appris énormément. On va aller à la prochaine acétate. Conférence à laquelle j'ai assisté, qui était aussi, donc j'ai fait les deux en même temps, j'avais la conférence après. C'est une conférence pour une trentaine, une quarantaine de pasteurs. Je fais partie de ce réseau-là de Nine Marks. Et donc, on a une retraite de pasteurs une fois par année. Et on est vraiment privilégiés. On avait C.J. Mahaney qui a écrit un livre sur l'humilité, peut-être que vous avez lu, mais un homme d'exception. C.J. était là, il a pris une heure et demie pour nous parler. Al Mohler était là. Et donc, différents éléments que j'ai retenus qui étaient peut-être plus personnels. C.J. a vécu des moments difficiles dans son pastorat. Et il est en train d'implanter une autre église, et ça va bien, mais il nous a partagé sa passion, malgré cela, et sa passion pour l'Évangile, pour son épouse. Il a dit, les gars, 3 places où vous devez toujours investir. Et ça va rester vraiment dans ma mémoire. Il a dit, les gars, perdez jamais, jamais votre émerveillement pour l'Évangile. Jamais. Parce que lorsque les gens vous écoutent prêcher, ils n'écoutent pas que ce que vous dites. Ils regardent votre cœur brûler pour Christ et être touché encore une fois par la grâce de Dieu. Aimez votre épouse, prenez soin d'elle, soyez là avec elle pour ne pas la perdre de vue à travers le ministère pastoral. Et troisièmement, ne négligez jamais de vous préparer pour la prédication. Il y a plein de choses qui vous amènent ailleurs, mais soyez là pour vous concentrer sur la prédication de la parole. On va aller à la prochaine acétate, je m'excuse. Je suis allé visiter Nouvelle Vie ici à côté. J'ai pris du temps avec Claude Houd, avec Jocelyn Olivier là-bas. J'ai vraiment été béni, très serviable. Les gars ont été généreux. Vous comprenez qu'ils sont comme 4000 là-bas, très occupés, mais ils ont pris du temps avec moi. 2 éléments que j'ai retenus. Une poursuite de l'excellence dans notre service pour le Seigneur. J'ai jasé avec Claude Houd, puis j'ai dit, ça me frappe ce que vous entreprenez. Toujours, il y a une poursuite d'excellence qui est là. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, ben oui, c'est parce qu'on fait ça pour le Seigneur. Fait que pour lui, c'est une conviction théologique. Puis pour être bien franc avec vous, je lui ai dit, ben moi, c'est drôle, c'est comme j'ai toujours entendu, ben tu sais, on le fait pour le Seigneur, fait qu'on fait de notre mieux. T'sais. Voyez-vous, c'est complètement l'opposé. Et lui, sa conviction, c'est non, non, non. C'est quoi que tu donnes au Seigneur? Tu donnes le meilleur. Et donc, je veux retenir ça, cette inspiration-là de dire, tout ce qu'on fait, on veut le faire vraiment le mieux qu'on peut parce que c'est pour le Seigneur qu'on est en train de le faire. Et de persévérer avec une vision. Il m'a partagé des choses qu'ils ont cherché à mettre en place et combien il a fallu persévérer pour pouvoir communiquer cela et progressivement que l'Église embarque dans cette vision-là. Donc ça a été un temps béni aussi. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Ben évidemment, je suis venu visiter l'Église de l'Espoir parce que pendant mes 11 semaines, il y a eu des baptêmes. Et mon inspiration ici, sans vouloir être têteux, c'est vous. Pour de vrai, c'était juste d'être ici avec la famille puis d'avancer ensemble puis juste de revenir ici. Honnêtement, j'ai vu des églises tellement extraordinaires, puis je remets le pied ici. Tout à l'heure, j'étais là. Cette semaine, c'est comme, OK, on revient des congés, tout ça, j'étais un peu nerveux, puis là, je dis, oh, je vais être nerveux un matin, puis tantôt, j'étais là, puis je dis, oh, je suis avec la famille. Puis tout le monde aime Jésus ici. Oh, c'est génial. Alors, évidemment, c'est une église qui veut suivre Dieu, et une sœur me soulignait à quel point il y a une belle unité, il y a un bel amour dans l'église, c'est vraiment une grâce. Prochaine acétate, je vais aller visiter l'église Acts 21, une église pas mal flyée avec Marc Pilon à Sherbrooke, qui fait les choses un petit peu différemment. Et ce que j'ai aimé là-bas, ce que j'ai retenu, un amour pour les pécheurs, pour les délaissés de la société. Il y a du monde poqué là-bas, je peux vous le dire. Et les gens poqués se sentent bienvenus et ça a l'air des fois un petit peu poqué. Et les pasteurs me racontaient combien d'histoires de personnes. Encore dernièrement, j'ai vu Marc et il dit, écoute, on a baptisé cette dame-là. La première fois que j'ai parlé de Jésus, elle sniffait une ligne de coke devant moi. Puis, X temps plus tard, on est en train de la baptiser, d'accord? Mais c'est ça. C'est ça, c'est une église qui a un amour pour les pécheurs, pour les délaissés de la société, ça m'a frappé. C'est un service aussi le dimanche matin qui est axé sur les chrétiens, mais qui est très sensible, vraiment accessible pour des non-chrétiens qui viennent. Les gens veulent voir, veulent nous connaître et ils vont venir un dimanche matin et il y a une belle sensibilité de ce côté-là. Prochaine acétate. L'église Le Portail à Laval. J'ai pas eu l'opportunité de rencontrer le pasteur. J'ai été frappé par l'accueil. La prédication extrêmement dynamique. C'est probablement dans les prédicateurs celui qui a le plus un style québécois dans le bon sens du terme, on s'entend. Mais très, très accessible. Prochaine acétate. Je suis allé voir, Acts 21 est en train de préparer son lancement pour Magog, alors je voulais voir s'il réussissait à reproduire ce qu'ils ont fait à Sherbrooke, c'est intéressant, la prochaine. Mars Hill Church, ça c'est Seattle, donc on est complètement dans l'ouest américain, et pour être bien franc avec vous, le highlight de ce voyage-là pour moi, c'est qu'il y avait Luc Panton, un des pasteurs de l'église ici, qui est avec moi sur ce voyage. Et déjà, simplement de faire ça ensemble, de discuter ensemble, de parler de l'église, des réalités, où est-ce qu'on s'en va. On a passé plusieurs heures à jaser comme ça. Et ça a été mon highlight vraiment du voyage, de ne pas être seul dans ça, mais de pouvoir rêver, triper ensemble à rêver de ce qui s'en vient. Ce que j'ai retenu de Mars Hill, dans leur petit groupe, ils ont des petits groupes qu'ils appellent les Redemption Group. Ce sont des groupes qui sont comme un sidetrack, une voie de garage où tu peux aller lorsqu'il y a des choses plus profondes à travailler dans ta vie et peut-être juste le quotidien, le fonctionnement normal de l'Église ne suffira pas. Ils vont inviter les gens à aller là parce que ceux qui s'occupent du groupe ont été formés pour ça. Et donc, ils vont travailler sur des choses, des couples en difficulté, des dépendances, toutes sortes de choses qui demandent peut-être un petit peu plus d'attention, plus de travail. Ils appellent ça les Redemption Group. C'est une des églises qui communique le mieux à son assemblée où est-ce qu'on s'en va. Et ça, c'est précieux. C'est quelque chose dans lequel nous, on doit grandir ici. Alors, beaucoup à apprendre. Très intentionnel dans la formation de disciples et de leaders. C'est probablement de toutes les églises que j'ai visitées, de toutes celles que je connais, celle qui est le plus intentionnelle, d'accord? Ils savent où ils s'en vont, tu sais où ils s'en vont, puis tu embarques avec eux, c'est très, très clair. Prochaine acétate, je suis allé visiter simplement pour voir la différence, un campus dans le secteur universitaire, toujours de l'église Mars Hill. Mars Hill, c'est 14 000 personnes, OK? C'est huge, c'est gros, dans plusieurs campus, tout ça, alors... On a des choses à apprendre, puis il y a des choses qu'on ne veut pas faire parce que ça n'a pas rapport, c'est trop gros. Beaucoup plus jeune. Quel temps de louange. Luc se rappelle du temps de louange à U-District, Mars Hill. C'est on est béni ici, et là-bas, j'ai été béni. La personne qui dirigeait la louange, ça a été vraiment un temps. Là. De tout mon voyage, ça a été mon meilleur temps de louange, ça je peux vous dire. Prochaine acétate. Oui, City Church. Un petit peu plus flyé comme église, d'accord? Très, très fort sur l'accueil, extrêmement chaleureux. Et puis, est-ce qu'il m'en reste une autre? Calvary Baptist Church, on retourne à New York, tout ça. Calvary Baptist Church, très bref comme visite, mais justement, j'étais allé visiter l'église de Redeemer Presbyterian Church. Et puis, cette église-là, et ce qui m'a frappé, je pense que Stan dirait ça aussi, ce qui était frappant, c'est de voir comment... Le contraste était évident, mais même si dans un contexte urbain où les gens se connaissent peu, c'est possible d'être très chaleureux. Et si Tim m'invite à prendre un café avec lui pour lui donner quelques conseils, je vais lui proposer de travailler sur cet aspect-là, Redeemer. Parce que Calvary, non, vraiment sérieusement, là, urbain, downtown, très, très, très chaleureux, prédication très dynamique. Alors, je pense que ça complète l'ensemble des églises que j'ai visitées. Donc, comme je vous dis, pendant ce voyage-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité 11 églises, j'ai fait 15 entrevues avec des pasteurs, j'ai lu, comme j'ai dit tout à l'heure, une quinzaine de bouquins que je suis en train de compléter, une trentaine de prédications. J'étais actif, admettons. C'était pas une sabbatique ordinaire, si on peut dire. La question que je posais au Seigneur lorsque je suis parti sur tout ce gros voyage-là, cette quête-là, c'était, Seigneur, comment conduire l'Église de l'espoir dans cette grande mission-là, de grandir nous comme disciples de Jésus-Christ et d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et chacune de ces églises-là sont engagées avec des défis particuliers, d'accord, selon leur contexte, leur histoire, leur compréhension des Écritures. Ils sont engagés très intentionnellement dans ce projet-là et j'ai appris énormément de choses. Comme je vous dis, j'ai rempli des calepins de notes entiers de ça. J'ai hâte de vous partager davantage la vision. On va faire ça début février. Je vais vous partager tranquillement la vision, mais vous allez en entendre parler aussi pendant les 4 prochaines années. Je vais vous partager des valeurs sur lesquelles on veut grandir comme Église aussi davantage. Maintenant, ce matin, je vais faire quelque chose en terminant, d'accord? Je vais vous lancer un défi. Parce que c'est évident que lorsque je reviens vous parler de ça en février, je vais vous parler... de grandir comme disciple de Jésus-Christ. C'est évident. Si on pense à la formation de disciples, on est en train de parler premièrement d'être des modèles nous-mêmes. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 11, s'il vous plaît. Simplement pour aller vers ce défi que je veux vous lancer ce matin. 1 Corinthiens 11, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Tout à l'heure, on a dit ensemble que chacune de ces églises-là cherche par la grâce de Dieu à faire des disciples. Et faire des disciples de Jésus-Christ, c'est présenter Jésus comme modèle parfait à suivre, à imiter. C'est aider des gens à connaître Jésus, à connaître le salut en Jésus-Christ et ensuite de ça, à entrer dans ses traces, marcher à sa suite. Maintenant, cela veut dire aussi que nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous devenons des modèles pour refléter la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul est en train de dire ici. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Et donc, lorsque je viens à la connaissance personnelle de Jésus-Christ, quand je commence à entrer dans ses traces, je suis appelé moi-même à devenir un modèle. Parce que je l'ai connu, je vais aller vers d'autres qui ne le connaissent pas et ils sont appelés à regarder à moi. Chacun d'entre vous qui connaissez personnellement Jésus-Christ, vous êtes un livre. Vous êtes un livre que les gens lisent à tous les jours. Et les gens lisent ce livre pour découvrir qui est Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Et il faut assumer ça, il faut accepter ça, accepter que nous sommes appelés à être une lumière dans ce monde. C'est ça que Jésus dit. Et cette lumière-là, on ne va pas la cacher, on ne va pas la couvrir. Au contraire, on va l'exposer. Et donc, chacun d'entre nous, que ce soit auprès de mon épouse, auprès de mon époux, auprès de mes enfants, auprès des collègues de travail, mes amis, à l'école, mon patron, ces gens-là me lisent, moi, comme un livre. Et je suis censé être en mesure de leur dire, « Garde, je ne dis pas que je suis parfait, mais tu veux savoir qui est Jésus-Christ? Fais un bout de chemin avec moi. Marche avec moi, avance avec moi. En regardant ma vie, en m'écoutant, je vais te partager les enseignements de Jésus, mais tu vas voir dans ma vie un imitateur de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à entrer dans ça, à accepter ça, à assumer ça. Est-ce que vous acceptez cette vérité que votre vie est un livre qui est appelé à refléter Jésus-Christ? Est-ce que vous acceptez ça? Lorsque vous vous levez le matin, est-ce que vous dites, « Moi, je veux être un reflet de Christ aujourd'hui. Je veux que les gens puissent chercher à m'imiter. » Alors, j'ai un défi pour vous ce matin. Est-ce que vous avez le goût de relever un défi en commençant l'année 2014? Non? Avez-vous le goût de bouger en 2014? Oui. Ou est-ce que vous avez le goût de rester assis, terminer l'année 2014 et dire « Ouais, je ne suis pas tellement meilleur qu'avant. Tout le monde me dit les mêmes affaires qui devraient changer dans ma vie. Je me regarde le matin et j'ai encore les mêmes problèmes. Je suis la même personne avec les mêmes péchés, avec les mêmes faiblesses. » On veut bouger en 2014. On veut ressembler davantage à Christ. J'ai un défi pour vous, un vrai défi. Et je vous donne un devoir cette semaine. Vous avez 6 jours pour remplir ce devoir-là, c'est bon? Mon devoir, c'est ceci, parce qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Mon devoir, c'est ceci. Vous allez aller voir des gens autour de vous. Pour vous-même, vous allez vous poser la question. Mais vous allez aller voir des gens autour de vous. J'ai commencé à le faire, d'accord? Pour moi. Vous allez leur poser la question suivante. Alors, commencez par votre époux, votre épouse. Évidemment, eux autres, ils lisent le livre tous les jours. Quand c'est plate, quand c'est bon, ils lisent le livre de votre vie, je peux vous le dire. Commencez proche autour de vous. Si vos enfants sont assez vieux pour répondre à ça, allez-y. La question, c'est la suivante. Si j'avais deux qualités à travailler dans ma vie pour qu'à la fin de l'année 2014, je ressemble un peu plus à Jésus-Christ, ce seraient lesquelles selon toi? Êtes-vous prêt à entendre les réponses? Si j'avais deux qualités, deux domaines dans ma vie où, tu sais, quand vous allez me regarder après, je vais avoir comme le profil de Jésus, tu sais, à la fin de l'année 2014, un peu plus. Bon, sauf la barbe, OK, pour les dames, pas nécessaire. Mais donc, cette semaine, ça commence maintenant, vous avez 6 jours pour faire le devoir, d'accord? Relevez le défi. Allez voir des gens autour de vous, vos proches. Allez vous-même dans la prière. Si vos enfants sont assez vieux, demandez-leur. J'aimerais vraiment ça que plusieurs osent aller voir leur boss à la job pour dire « Hey, boss, si j'avais deux choses à changer dans ma vie qui ferait que je ressemblerais plus à Jésus. » Parce qu'il dit « Jésus, ben, tu sais, quelqu'un de parfait. » OK, on va commencer comme ça. Qu'est-ce que je devrais travailler dans ma vie cette année? Allez demander à des collègues de travail. Vous savez, le fatigant qui ne vous aime pas à face, lui, il sait ce que vous avez travaillé, je vous le garantis. Il y a une bonne idée là-dessus. Puis mettez ça dans la prière. Dimanche prochain, on se retrouve à 9h pour la prière. On vous l'a dit, Alexandre va nous conduire dans un temps de prière et on va commencer à amener ça au Seigneur. Et dans le message que je vais apporter ensuite, c'est ça qu'on va voir ensemble. Comment changer en 2014? Comment transformer ces désirs-là pour que ce soit vraiment un processus de changement où à la fin de l'année 2014, nous ressemblions davantage à notre modèle qui est Jésus-Christ. Et déjà, si on fait un bout de chemin ensemble dans ce sens-là, on va être en train d'avancer ensemble dans cette vision. J'aimerais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez relever le défi cette semaine? Vous avez 6 jours. La semaine prochaine, vous revenez avec 2 éléments. Vous vous dites, ces 2 éléments-là, j'ai la conviction, je suis en paix avec ça, il y a des personnes qui me les ont mentionnés. Ça peut être toutes sortes de domaines, d'accord? Mon épouse, ça a été vite. Quand j'ai posé la question, on est sortis ensemble lundi dernier, on est allé manger, on a pris un petit dessert, j'ai dit, chérie, 2 domaines que je pourrais travailler, ça serait quoi? Le premier est venu vite. Je vous le dis. On m'a dit, Yannick, t'es un bon gars. Mais, si tu grandissais dans ta gentillesse, dans les relations, du tac au tac, c'est beaucoup le quotidien. Je sais, j'ai l'air d'un gars bien gentil comme ça, là, tu sais, mais au quotidien, à la maison, dans ta gentillesse, dans ta douceur, de retenir des répliques pour être là, puis nous construire, il me semble que tu ressemblerais plus à Christ. Il m'en a donné un autre aussi. Puis après ça, moi, je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je te partage des choses que toi, tu pourrais travailler? Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Ce que vous allez réaliser assez vite cette semaine, quand vous allez commencer à poser la question à différentes personnes, vous allez réaliser que vous allez leur faire du bien. Ça fait du bien, ces conversations-là. Esther et moi, on est partis de là. Il y avait de la joie. Parce qu'à quelque part, j'étais en train de dire à mon épouse, puis je suis en train de communiquer aux gens autour de moi, « Regarde, on peut devenir meilleur. Je sais que je ne suis pas là, je sais que j'ai des choses à grandir, je sais que je veux travailler sur moi-même. » Et donc, ça ouvre des choses, ça amène de l'énergie à la personne. La personne elle-même a cette ouverture-là de dire, « Ouais, hey, c'est intéressant cette question-là. » Je vous dis, il y a des collègues de travail qui vont partir en disant, « Bon, comme Jésus, je ne suis pas sûr, je comprends, là, mais OK, ouais, toi, qu'est-ce que tu vois dans ma vie que je pourrais travailler cette année? » Puis vous pourriez avoir des super belles opportunités de parler de l'Évangile même à travers ça. Alors, ayez le courage de le faire cette semaine. Ça peut être dans toutes sortes de domaines, d'accord? C'est tout ce que Jésus a prescrit, tout ce qu'il était comme personne, dans ses qualités, dans ses attitudes, dans ce qu'il enseignait. Ça peut parler de vos finances, ça peut parler de vos attitudes, ça peut parler de vos comportements, ça peut parler de votre spiritualité, de votre piété, de conduire du temps, conduire la famille dans la parole de Dieu. Ça, un million de sujets plus intimes même. Et si dimanche prochain, vous revenez et vous dites, « Ouais, mais moi, tu sais, il y en a que je suis un éternel indécis, j'en ai comme 3-4, pas clair. » Venez pour la prière aussi, d'accord? Et demandez à Dieu de vous convaincre. Dieu aime ça. Dieu aime ça lorsqu'on cherche à grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et l'Esprit-Saint va venir vous convaincre de choses à travailler. On va prier ensemble, d'accord? Seigneur Jésus, j'ai visité toutes ces églises et aucune d'entre elles n'est parfaite, Seigneur. Aucune d'entre elles n'est parfaite, Seigneur, mais chacune d'entre elles a une passion pour toi. J'ai été édifié de voir à quel point ton esprit est partout sur cette terre, Seigneur. Ton esprit est partout pour nous attirer vers toi, nous attirer vers le haut, nous amener à te ressembler, Jésus, à devenir à ton image davantage, à être tes imitateurs, Seigneur, afin que les gens autour de nous, les communautés autour de nous, nos familles, découvre en nous quelqu'un de différent, quelqu'un qui ressemble à un être suprême, à un être divin. J'ai vu dans chacune de ces églises cette passion-là, Seigneur. Et nous voulons avancer en 2014 avec cette même passion, Seigneur. Père, par moments, on a tendance à se décourager et à se dire, bon, le travail est difficile, je ne sais pas si tu peux me transformer encore. Seigneur, je veux me rappeler cette promesse que tu nous as donnée, que l'apôtre Paul nous rappelle lui-même, que tu vas terminer l'œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur. Et j'attends de 2014, pour ma part, pour mon épouse, pour mes enfants, pour toute cette Église, j'attends de moi, Seigneur, et de toi, de ressembler plus à Christ à la fin de l'année, Seigneur. Et que ce soit notable, que les gens le voient, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.